Péné et Mathieu Ferré, la troisième des cinq émissions qu'il consacre à Léo Ferré.
Même des influences qu'on a pu subir, mais il y a des gens que j'aime, enfin, avec qui je cousine. Moi, j'aime beaucoup Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, et puis beaucoup plus près de nous, qu'il soit mort aussi, Apollinaire.
Les poètes du 19e siècle, j'ai dit Baudelaire, Verlaine et Rimbaud, ont une vie abominable et ils n'ont pas su vivre de ce qu'ils faisaient, parce que c'était uniquement la poésie, et la poésie mise en musique, après, ça porte les paroles dans la tête des gens, dans l'oreille des gens, et c'est formidable, quoi.
Mathieu Ferré, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui a beaucoup compté dans l'œuvre de votre père et qui, je crois, lui tenait à cœur, à savoir la mise en musique des poètes. On a tous en tête, bien sûr, Rimbaud et Verlaine, sur lesquels il a fait un gros travail. Mais je crois qu'il y en a d'autres.
Oui, il y a Baudelaire, il y a Apollinaire, auquel il a consacré des disques en entier. Et puis, il a mis en musique aussi Ronsard, Laforgue, Villon, ainsi de suite, Aragon. Et moi, je ne connaîtrais pas la poésie s'il n'avait pas fait ce travail. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la même situation que moi. Et je l'en remercie de m'avoir permis de découvrir la poésie de cette façon. Puis, je voudrais vous lire un petit texte qu'il a écrit. N'oublie pas que la poésie ne se lit pas. Elle ne s'est jamais lue, à part quelques maniaques comme nous et encore. L'important, c'est toi et tout ce que t'apporte le lendemain. De la victoire sur soi-même et sur les imbéciles qui nous entourent.
Alors nous allons entendre la voix de Léo, bien sûr, mais aussi celle d'Aragon, et puis le témoignage de Robert Orville. Robert Orville, bonjour. Vous êtes professeur de littérature française à l'Université de Lille 3. Vous êtes également directeur du département des études théâtrales. Vous avez fait publier un recueil de textes avec Léo Ferré de 620 pages baptisé La Mauvaise Graine. Il est sorti après sa mort en 93. Et vous faites également partie du comité de rédaction des cahiers Léo Ferré. Et je voudrais qu'on aborde l'aspect des poèmes mis en musique par Léo Ferré, notamment les poètes maudits, donc une chose qu'on retrouve constamment tout au long de son œuvre, que vous nous expliquiez un petit peu à quoi correspondait cette démarche selon vous et ce que ça a apporté.
Oui, alors en effet, il a mis en musique de très nombreux poètes. On peut donner quelques noms et quelques dates pour éclairer les choses. Le premier poème qu'il a mis en musique, c'est le premier rameau d'Apollinaire en 1950. Et puis Pauvre Ruteboeuf en 1956, et il y a eu un certain nombre de disques qui ont été exclusivement consacrés à ces mises en musique. Baudelaire en 57 et 67, Verlaine Rimbaud en 64, Une saison en enfer de Rimbaud à nouveau en 91, et à cela on peut ajouter le travail qu'il a fait autour de la chanson du mal-aimé de Guillaume Apollinaire en 1952 et la mise en musique du bateau ivre de Rimbaud en 1982. Alors, comment s'explique cette démarche de mise en musique? Alors, je pense que Léo Ferré faisait une distinction entre texte et musique, et qu'il considérait que l'un et l'autre étaient susceptibles d'avoir une autonomie. Et il procédait un petit peu de la même manière par rapport à ses textes, hein, puisque, contrairement à beaucoup d'auteurs-compositeurs, il lui arrivait souvent de mettre en musique des textes qu'il avait écrits longtemps après leur écriture. Il y a parfois des décalages de 10 ans, 20 ans, voire 30 ans entre la date d'écriture et la date de mise en musique. Et le travail de mise en musique, il l'a d'ailleurs théorisé de façon très intéressante dans un texte qui s'appelle La mise en musique, hein, où il montre que dans ce travail de mise en musique, il n'y a pas véritable collaboration, mais il y a rencontre. Hein.
« pendant de sa bouffe de fraise, en se tordant ainsi qu'un serpent sur la braise, et pétrissant ses seins sur le fer de son buse, laissait couler ses mots, tout imprégnés de muse. Moi, j'ai la lèvre humide, et je sais la science de perdre au fond d'un lit l'antique conscience. Je sèche tous les pleurs sur mes seins triomphants et fais rire les vieux du rire des enfants. Je remplace pour qui me voit nu et sans voile la lune, le soleil, le ciel et les étoiles. Cher savant, si docte volupté, lorsque j'étouffe un homme en mes bras veloutés, ou lorsque j'abandonne aux morsures mon buste, timide et libertine, et fragile et robuste, que sur ces matelas qui se pâment des mois, les anges impuissants se donneraient pour moi. Quand elle eut de mes os sucé toute la moelle et que languissamment je me tournais vers elle pour lui rendre un baiser d'amour, je ne vis plus qu'une outre au flanc gluant, toute pleine de pu. Je fermais les deux yeux dans ma froide épouvante, et quand je les rouvris à la clarté vivante, à mes côtés, au lieu du mannequin puissant qui semblait avoir fait provision de sang, tremblait confusément des débris de squelettes qui de même rendaient le cri d'une girouette ou d'une enseigne au bout d'une tringle de fer que balance le vent.
Parmi les poèmes de Baudelaire, on ne peut pas tout mettre en musique. Il ne faut pas, comme on dit, déposer de la musique le long de n'importe quel vers, comme ça, histoire de faire des chansons. Je pense qu'il faut que les vers, les grandes poésies, et, parlant de Baudelaire, puisqu'il s'agit de Baudelaire aujourd'hui, dans un livre, sont réservés à ce qu'on appelle l'élite, n'est-ce pas ? Mais je pense que, surtout à notre époque, la musique est devenue un véhicule extraordinaire et projette davantage la parole, parce que les gens achèteront un disque avec de la musique, et ils réfléchiront avant d'acheter un disque ou un comédien, enfin un grand acteur déciderait un jour de dire du Baudelaire comme ça, sans musique.
Quelle est votre position là-dessus, Robert Orville ?
Moi, je trouve que c'est un travail, en effet, très, très positif, parce que c'est un vrai travail créatif, que par ailleurs, c'est un travail de vulgarisation qui permet à un certain nombre de gens d'avoir accès à ces textes qu'ils n'auraient pas été voir. Hein. Et en particulier, Léo Ferré disait que, pour lui, la musique, c'était une sorte de véhicule qui permettait d'apporter les textes de ces grands poètes jusqu'aux oreilles des auditeurs. Mais il me semble que cette conception des choses relève d'une distinction tout à fait artificielle qui s'est installée dans la conception de l'art occidental, cette division qui remonte au XVIIe siècle en France, hein, consiste à établir des cloisons très étanches entre les deux modes d'expression, et même à l'intérieur d'un même mode d'expression, là encore, en utilisant la notion de genre ou de sous-genre, d'établir d'autres distinctions, c'est-à-dire une écriture romanesque, c'est pas une écriture théâtrale, la musique, ce n'est pas le texte, il faut que chacun reste en quelque sorte chez soi. Alors qu'évidemment, l'art n'a pas de frontières, n'a pas de limites. À mon avis, l'art, c'est quelque chose de pluridisciplinaire. Et justement, l'un des grands talents de Léo Ferré, c'est d'avoir eu la possibilité de marier des formes d'expression très, très diverses. Alors évidemment, ce mariage, ce mélange, a gêné ceux qui étaient partisans de cette séparation radicale. D'où ces critiques parfois véhémentes, notamment les critiques que Léo Ferré a essuyées lorsqu'il dirigeait les orchestres. C'est-à-dire cette idée que Léo Ferré ne faisait pas partie du milieu des chefs d'orchestre et que par conséquent il ne pouvait pas diriger un orchestre. Et bien de même, cette idée que Léo Ferré était un auteur de chansons et que par conséquent il n'avait pas le droit quelque part de s'attaquer à des textes comme ceux de Baudelaire, de Verlaine ou de Rimbaud.
Homme énigmatique, dis, ton père, ta mère, ta sœur, ou ton frère. Je n'ai ni père, ni mère, ni sœur, ni frère. Tes amis, vous vous servez là d'une parole dont le sens m'est resté jusqu'à ce jour inconnu. Ta patrie, j'ignore sous quelle latitude elle est située. La beauté, je l'aimerais volontiers. Déesse immortelle. L'or, je le hais, comme voix ici dessus. Et qu'aimes-tu donc, extraordinaire étranger? J'aime les nuages qui passent là-bas. Les merveilleux
Mathieu Ferré, nous venons d'entendre deux exemples de poèmes de Baudelaire mis en musique par Léo Ferré. Le premier, tiré du disque qu'il a consacré au poète en 1957. C'était à l'occasion du centenaire de la parution des Fleurs du Mal. L'autre, tiré du deuxième disque en 1967. Est-ce qu'il y en a eu d'autres poèmes comme ça mis en musique?
Oui, alors de Baudelaire, il y en a une autre série qui est chez nous en Italie, qui n'est pas sortie à ce jour. Il y en a 18 Fleurs du Mal. Et je pense dater ça en 76, parce que j'imagine que après 57, 67, il devait envisager faire un autre Baudelaire en 77. C'est pour ça que je date ça en 76. Ce qu'il n'a pas fait, je sais pas, j'en connais pas la raison, mais bon. En tout cas, nous, on en a une trace de ça. Et puis en 87, il a fait un disque, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans, tiré de Rimbaud, sur lequel il y a, un mélange de Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Apollinaire.
Et quand est-ce qu'il a commencé à travailler sur Rimbaud et Verlaine?
Bien, je pense que à la fin des années de 58 jusqu'à 60, après la rupture chez Odéon et avant de signer chez Barclay, il n'avait pas de maison de disques. Donc pendant deux ans, il a beaucoup écrit. Et notamment, je pense qu'il a commencé à travailler sur les Verlaine, Rimbaud qui sont sortis après chez Barclay uniquement en 64, à ce moment-là. Donc je pense en 59.
Justement, en 59, on a retrouvé une archive de l'INA, précisément le 22 octobre 59. Il présente une de ses dernières créations dans l'émission Avant-première.
C'est le 20 novembre prochain, au Drap d'Or, que Léo Ferré, qui fait de plus en plus figure de prince des chanteurs-compositeurs, effectuera sa rentrée parisienne. Léo Ferré, bien en avant-première de cette date, est venu nous rendre en passant une visite de poésie.
Léo Ferré, la dernière fois que vous êtes venu à ce micro, vous nous aviez parlé d'une série Verlaine que vous aviez entreprise. Où en êtes-vous ?
Eh bien, je viens de terminer une série de 12 sages Verlaine. Quand je veux dire sage poétiquement. Et je viens vous chanter aujourd'hui la dernière des poésies de Verlaine que j'ai mise en musique.
Mais que se passe-t-il en ce moment ? Vous semblez être en révolte contre les paroliers de notre époque, parce que je vois que vous écrivez des chansons avec Baudelaire, et puis maintenant vous en écrivez avec Verlaine.
Non, parce que vous savez, on m'a toujours dit que j'étais plus ou moins en révolte. Moi, alors je me suis tairé quelque temps, puis j'ai tout de même envie de descendre dans la rue de la chanson en ce moment, parce que, étant donné que nous vivons tout de même, et je crois que personne ne me contredira, et que dans une certaine mesure, nous vivons le Moyen-Âge, j'ai envie de faire la croisade, et je cherche des copains à moi qui feraient avec moi cette croisade contre l'imbécilité de la parole française. Il y a des exceptions, mais elles sont rares, hélas. Et alors, je vais vous chanter aujourd'hui une chanson dont le parolier est mort à la fin du 19e siècle, et c'est un divin parolier. Et quand ils sont divins, les paroliers, on les appelle poètes maudits. La sérénade de Paul Verlaine.
Comme la voix d'un mort qui chanterait du fond de sa fosse, maîtresse, entends monter vers ton retrait ma voix aigre et fausse. Ouvre ton âme et ton oreille au son de ma mandoline. Pour toi j'ai fait pour toi cette chanson cruelle et câline. Je chanterai tes yeux d'or et d'onyx, purs de toutes ombres. Puis le l'été de ton sein, puis le styx de tes cheveux sombres. Comme la voix d'un mort qui chanterait du fond de sa fosse. Maîtresse, entends monter vers ton retrait ma voix aigre et fausse. Puis je louerai beaucoup comme il convient cette chair bénie, dont le parfum opulent me revient les nuits d'insomnie. Et pour finir, je dirai le baiser de ta lèvre rouge, et ta douceur à me martyriser, mon ange, ma gouge. Comme la voix de mort qui chanterait du fond de sa fosse. Maîtresse, entends monter vers ton retrait ma voix aigre et fausse. Ouvre ton âme et ton oreille au son de ma mandoline. Pour toi j'ai fait pour toi cette chanson cruelle et câline.
Robert Orville.
Pourquoi cet intérêt au poète maudit ? Parce qu'en effet, il partageait, je crois, cette idée que le créateur est en marge et est maudit par la société parce qu'il n'est pas compris par la société. Et que par conséquent, une des marques du génie ou du talent, c'est cette malédiction. Et en particulier, sur Verlaine et Rimbaud, il a écrit un très beau texte qui s'appelle « Maudit soit-il ».
Je me sentis plus aidé par les haleurs, comme je descendais des fleuves impassibles. pauvres criards, les avait pris pour cible.
Oui, les pauvres.
Les ayant cloués nus,
les avait pris pour cible.
Au poteau de couleur,
les ayant cloués nus, au poteau de couleur.
Oui,
oui.
J'étais insoucieux de tous les équipages,
oui.
Porteurs de blé flamand. Anglais, quand avec mes haleurs on finit ces tapages, les fleuves m'ont laissé descendre où je voulais.
Les fleuves m'ont laissé descendre où je voulais.
Dans les clapotements furieux des marées, moi, l'autre hiver, plus sourd que les cerveaux d'enfants, je courus. Et les péninsules des marées n'ont pas subi tohu bohu plus triomphant. La tempête a béni mes éveils maritimes, plus légers qu'un bouchon. J'ai dansé sur les flots qu'on appelle aux rouleurs éternels de victimes. Dix nuits, sans regretter la lignée des falots. Comme je descendais des fleuves impassibles.
Oui, 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 oui.
Je ne me sentis plus guidé.
Je ne me sentis plus.
Parlez à l'heure. Des pourrouges criards,
des pourrouges
les avaient pris
criards,
pour cible,
les avaient pris pour cible,
les ayant cloués
nus
au poteau de couleur,
au poteau de couleur,
les ayant cloués nus au poteau de couleur.
Hey,
j'étais insouciant. Tous les équipages, porteurs de blé flamand ou de cotons anglais, quand avec mes haleurs on finit ces tapages, les fleuves m'ont laissé descendre où je voulais. Pénétra ma coque de sapin et des taches de vin bleu et des vomissures me lava, dispersant gouvernail et grappin. Et dès lors, je me suis baigné dans le poème de la mer, infusé d'astres et lactescent, dévorant les azurs verts où flottait son emblème et ravi, un noyer pensif, parfois décent, où, teignant tout à coup les bleuités, délires et rythmes lents sous les rutilements du jour, plus fortes que l'alcool, plus vastes que nos lyres, fermentent les rousseurs amères de l'amour. Je sais les cieux crevant un éclair, et les trombes, et les ressacs, et les courants. Je sais le soir, l'aube exaltée, ainsi qu'un peuple de colombes. Et j'ai vu quelquefois ce que l'homme a cru voir. Et j'ai vu quelquefois ce que l'homme a cru voir. J'ai vu quelquefois. Ce que l'homme a cru voir. J'étais insoucieux de tous les équipages, porteurs de blé flamand ou de cotons anglais, quand avec mes haleurs on finissait ta page, les fleuves m'ont laissé descendre. Les fleuves m'ont laissé descendre. Où je voulais. J'ai vu le soleil bas attaché d'horreur mystique illuminant de longs figements violets, pareil à des acteurs de drame très antiques. Les flots roulant au loin, leurs frissons de volets. J'ai rêvé la nuit verte aux neiges éblouies, baisé montant aux yeux des mers avec lenteur la circulation des sèves inouïes et l'éveil jaune et bleu des phosphores chanteurs. Comme je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentis plus guidé par les haleurs. Des peaux rouges criards les avaient pris pour cible, les ayant cloués nus aux poteaux de couleur. J'étais associé de tous les équipages, porteurs de blé flamand ou de cotons anglais. Quand avec mes haleurs on finit ces tapages, les fleuves m'ont laissé descendre. Pareil aux vacheries hystériques, la houle à l'assaut des récifs, sans songer que les pieds lumineux des maris puissent forcer le mufle aux océans poussifs. J'ai heurté, savez-vous, d'incroyables florides, mêlant aux fleurs des yeux de panthères à peau d'homme, des arcs-en-ciel tendus comme des brides, sous l'horizon des mers, à de glauques troupeaux. J'ai vu fermenter les marais énormes, nasses ou pourries dans les joncs tout un léviathan, des écroulements d'eau au milieu des bonasses, et les lointains vers les gouffres cataractants, glaciers, soleil d'argent, flots nacreux, cieux de braise et choises giteux, au fond des golfes bruns, où les serpents géants dévorés, des punaises choix, des arbres tordus avec de noirs parfums. Comme je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentis plus guidé par les haleurs des pauvres criards. Les avaient pris pour cible, les ayant collés au poteau. J'étais insoucié de tous les équipages, porteurs de blé flamand ou de cotons anglais, quand avec mes haleurs on finissait tapage, les fleuves m'ont laissé descendre. Où je voulais. J'aurais voulu montrer aux enfants ces dorades du flot bleu, ces poissons d'or, ces poissons chantants. Des écumes de fleurs ont bercé mes dérades et d'ineffables vents m'ont ailé par instants. Parfois, martyrs lassés des pôles et des zones, la mer dont le sanglot faisait mon rouille doux montait vers moi ses fleurs d'ombre aux ventouses jaunes et je restais ainsi qu'une femme. Comme je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentis plus guidé par les haleurs. Des peaux rouges criards les avaient pris pour cible, les ayant cloués nus aux poteaux de couleur. J'étais insoucieux de tous les équipages, porteurs de blé flamand ou de cotons anglais. Quand avec mes haleurs on finissait à page, les fleuves m'ont laissé descendre où je voulais. Presqu'île, ballottant sur mes bords, les querelles. Il est fiante d'oiseaux clavaudeurs aux yeux blonds. Et je voguais, lorsqu'à travers mes liens frêles, des noyés descendaient dormir, à reculons. Or, moi, bateau perdu, sous les cheveux des anses, jeté par l'ouragan dans les terres sans oiseaux, moi, dont les monitors et les voiliers et anses n'auraient pas repêché la carcasse ivre d'eau, libre, fumant, montée de brume violette, moi qui trouais le ciel rougeoyant comme un mur qui porte confiture exquise au bon poète, des lichens de soleil et des morves d'azur qui couraient, tachées de lunules électriques, planches folles, escortées des hippocampes noirs, quand les juillets faisaient crouler à coups de les cieux ultramarins aux ardents entonnoirs.
comme je descendais des fleuves impassibles. Je
des peaux rouges criards les avaient pris pour cible, les ayant cloués et nus au poteau de couleur. J'étais insoucieux de tous les équipages, porteurs de blé flamand ou de cotons anglais, quand avec mes haleurs on finissait tapage, les fleuves m'ont laissé descendre où je voulais, moi, trembler, sentant geindre à 50 lieues le rude des béhémots et les maelstroms épais, fileurs éternels des immobilités bleues. Je regrette l'Europe aux anciens parapets. J'ai vu des archipels sidéraux et des îles dont les cieux délirants sont ouverts aux vogueurs. Est-ce en ces nuits sans fond que tu dors et t'exiles, millions d'oiseaux d'or, ô futur vigueur? Mais vrai, j'ai trop pleuré, les aubes sont navrantes, toute lune est atroce et tout soleil amer. L'âcre amour m'a gonflé de torpeurs enivrantes. Oh, que ma quille éclate, oh, que j'aille à la mer. Si je désire une eau d'Europe, c'est la flash noire et froide où, vers le crépuscule embaumé, un enfant accroupi plein de tristesse lâche un bateau frêle comme un papillon de mai. Je ne puis plus baigner de vos langueurs, oh lames, enlever leur sillage aux porteurs de coton, ni traverser l'orgueil des drapeaux et des flammes, ni nager sous les yeux horribles des pontons.
La version intégrale, qu'on n'entend pas souvent, du bateau ivre de Rimbaud, mise en musique et enregistrée par Léo Ferré en 1982, avec l'Orchestre Symphonique de Milan, qu'il dirige lui-même. Outre les poètes maudits, Léo Ferré a collaboré avec des poètes contemporains, en premier lieu Aragon, rencontré presque par hasard.
J'étais en 56, je suis rentré à la librairie La Une à Saint-Germain-des-Prés, j'étais au rayon de poésie, et j'ai acheté un livre d'Aragon qui s'appelait Le Roman Inachevé. Aragon, je le connaissais comme ça de loin, quoi. On s'était vu deux fois comme ça, mais on se serrant la main, quoi. Comme on fait dans ce métier, où on connaît beaucoup de gens, bien définitif, on connaît personne. Et je suis rentré chez moi, j'étais seul, j'ai ouvert le livre, j'ai mis en musique deux, trois poèmes, comme ça. C'est-à-dire que j'ai improvisé. C'est le seul critère pour moi, parce que si je travaille sur quelque chose, j'ai le sens critique, et puis je me dis, bon, pourquoi pas ça, pourquoi pas cette musique plutôt qu'une autre, quoi. Mais il faut donc que ça vienne tout de suite. C'est ce que j'ai fait avec Aragon. Alors quand j'ai vu ça, je me dis, tiens, j'aimerais bien faire des choses avec ça. J'ai téléphoné à Catherine, qui le connaissait bien, qui a téléphoné à Aragon. Aragon, je l'ai vu, et j'ai mis 10 chansons en musique, il était très content, et voilà, c'était fait comme ça.
Il n'aurait fallu qu'un moment de plus pour que la mort vienne, mais une main nue alors est venue qui a pris la mienne. Qui donc a rendu leur couleur perdue aux jours, aux semaines, sa réalité à l'immensité des choses humaines. Moi qui frémissais toujours, je ne sais de quelle colère, de bras ont suffi pour faire un air où soudain la verveine pousse. Et mon cœur défunt prenait au parfum qui fait l'ombre douce. Il n'aurait fallu qu'un moment de plus pour que la mort vienne, mais une main nue alors est venue qui a pris
la mienne.
L'homme qui réellement a donné essor aux chansons faites d'après poème est Léo Ferré, bien que avant lui, il y ait eu une chanson qui a été en réalité très populaire. Cette chanson, ce sont Les yeux d'Elsa. Les yeux d'Elsa, je n'en connaissais d'ailleurs pas l'auteur, et qui n'avait d'abord pas signé sa chanson. Je l'ai entendu pour la première fois à la radio, et ce n'est que beaucoup plus tard qu'un jeune homme très timide, qui s'appelle Jean Ferrat, m'a avoué qu'il était l'auteur de cette chanson. Léo Ferré, lui, avait pris plus particulièrement, tout d'abord dans le roman inachevé, et puis ensuite dans mon poème Elsa, des passages de mes poèmes, et en avait fait des chansons, c'est-à-dire qu'il ne les donne en général pas in extenso, en prend quelque chose qui en donne le mouvement général, souvent il y a fait des modifications, c'est-à-dire placer les strophes dans un ordre différent, ou même pris un vers du poème pour en faire un refrain, alors que c'est un vers qui n'est dans le poème donné qu'une fois.
Tout ça, vous acceptez, vous? Ça vous gêne pas?
Mais non, pourquoi est-ce que ça me gênerait? Je ne vois aucune raison. J'ai écrit mes poèmes comme poèmes sous une certaine forme. Mais quand on les chante, premièrement, ils ne peuvent jamais avoir la longueur que le poème peut avoir. Une chanson comporte un nombre limité de strophes. Enfin, au XIXe siècle, on chantait des chansons qui étaient relativement interminables, mais l'habitude est venue, même sans arriver aux dernières chansons, que ceux de la toute dernière génération, qui se bornent même, disons, à quelques mots. Mais enfin, en général, une chanson, quand elle a 3, 4, 5 strophes, c'est tout le bout du monde, et au-delà de cela, c'est fatigant. Par conséquent, cela a des règles auxquelles il faut bien se plier. Je trouve très naturel qu'un homme qui fait des chansons, un homme du talent et de la sensibilité de Léo Ferré, prenne quelque chose de moi. J'en suis même absolument honoré, et je suis même très intéressé à ce qu'il fait en coupant ainsi, en distribuant les choses. C'est comme s'il pratiquait une critique de la poésie, de ma poésie. Il met en valeur ce qu'il a touché, ce qui correspond à sa sensibilité propre, et même, pense-t-il, à la sensibilité du public. Cela m'apprend énormément sur mes poèmes, et bien que je sois absolument innocent de ces choses, puisque Ferré m'a toujours demandé, si ça ne me gênait pas, montrer avec beaucoup de gentillesse les choses, mais il les avait faites avant. Ça n'est pas sur mes conseils qu'il a coupé ceci ou cela, mais de son fait. Eh bien, quand j'ai vu cela, écouté ses chansons, ça a eu sur moi une certaine influence, et il est certain que dans les poèmes plus récents de moi, peut-être pourrait-on trouver une influence en retour de la chanson telle que Léo Ferré la comprend.
Je chante pour passer le temps petit qu'il me reste de vivre, comme on dessine sur le givre, comme on se fait le cœur content. Ces cailloux sur les temps, je chante pour passer le temps. J'ai vécu le jour des merveilles, vous et moi, souvenez-vous-en. Et j'ai franchi le mur des ans, des miracles plein les oreilles. Notre univers n'est plus pareil, j'ai vécu le jour des merveilles. Ses doigts se dénouent comme le front avec la gloire. Nos yeux furent premiers à voir les nuages plus bas que nous. Et l'alouette à nos genoux, allons que ses doigts se dénouent. Nous avons fait des clairs de lune pour nos palais et nos statues. Qu'importe, à présent qu'on nous tue, les nuits tomberont une à une. La Chine s'est mise en commune, nous avons fait des clairs de lune. Et j'en dirais, tant fut cette vie aventure où l'homme a pris grandeur nature, sa voix par-dessus les forêts, les monts, les mers et les secrets. J'en dirais. Oui, pour passer le temps, je chante. Au violon s'use l'archet, la pierre au jeu des ricochets, et que mon amour est touchante. Près de moi, dans l'ombre penchante, oui, pour passer le temps, je chante. Je chante pour passer le temps, oui, pour passer le temps. Je chante.
Robert Orville.
Aragon, lorsqu'il a fait ce travail avec Léo Ferré, donc ce travail de mise en musique des poèmes du roman inachevé, a écrit parallèlement au texte la mise en musique. Un texte dans lequel il se félicite du travail de Léo Ferré et où il dit cette mise en musique constitue l'acte suprême, en quelque sorte, de l'analyse critique. Une explication parfaite de texte, parce que c'est une explication qui utilise la création, c'est-à-dire qui se situe au même niveau que la création. Et Aragon, dans ce texte, disait que le résultat, eh bien, c'était une œuvre, en quelque sorte, autonome, qui n'était ni la musique de Léo Ferré, ni le texte de lui, Aragon, mais qui constituait une sorte de résultant de ces deux aspects, selon cette osmose que Léo Ferré décrit très bien dans ce texte à mise en musique dont j'ai parlé tout à l'heure.
Aragon dans son livre, dans sa poésie, au cœur même des mots. Je l'ai lu avec mes mains enchaînées au clavier et à ma voix. Entendons-nous bien, cela n'est pas une formule ni une image, mais l'expression d'une technique. Le vers d'Aragon est, en dehors de toute évocation, branché sur la musique. On a pris l'habitude d'écrire, dans les manuels de littérature, que le vers se suffit à lui-même et que les syllabes chantent, que la rime où l'assonance accuse les contours de la mélodie verbale. En dehors des recherches purement phonétiques, le poète écrit des mots. Leur musique, s'il en est, ne va pas sans un certain rythme interne. C'est ainsi que l'alexandrin est magnifissant, que l'octosyllabe l'est moins, et que le vers de quatre pieds paraît céder davantage au désir de parler qu'à celui de chanter. Je ne crois pas tellement à la musique du vers, mais à une certaine forme propice à la rencontre du verbe et de la mélodie. Ce qu'Aragon déploie dans la phrase poétique n'a besoin d'aucun support, bien sûr, mais la matière même de son langage est faite pour la mise sur le métier des sons. Je ne crois pas à la collaboration, mais à une double vue, celle du poète qui a écrit, celle du musicien qui voit ensuite et qui perçoit des images musicales derrière la porte des paroles. Derrière la porte des paroles d'Aragon, il y avait une musique que j'ai trouvé immédiatement. Et quand cela n'était pas immédiat, je tournais la page et passais à d'autres portes. J'ai mis Aragon en musique de la même façon que j'ai mis en musique Rudebeuf. Rudebeuf a vécu il y a 700 ans. Aragon vit en 1961. C'est assez dire que le vers français a un potentiel de musicabilité qui s'inscrit dans un certain espace-temps et non plus dans l'énoncé des générations littéraires. D'ailleurs, il comprenait très bien ça. Il avait compris quand il était venu écouter les chansons à la maison que j'avais faites. Justement, moi, je l'avais vu une ou deux fois. J'avais mis les chansons comme ça en musique. J'ai voulu lui demander l'autorisation. Et comme il était, comme Catherine Sauvage le connaissait mieux que je ne le connaissais, elle lui avait dit, elle lui avait téléphoné, quoi. Alors moi, après, je lui avais téléphoné, il était venu avec Elsa à la maison. Il avait écouté les choses, et ça lui paraissait de devenir des chansons, c'était autre chose pour lui. Et le verre restait proprement à lui, et la musique, c'était moi. Donc, l'alliance, ça fait que ça fabrique cette entente nouvelle des paroles, de la musique qui va dans l'oreille des gens, qui fait que les poètes ne sont plus des gens qu'on lit de loin avec la lunette, et qui sont même dans la rue quand il le faut.
Je crois que justement Léo Ferré s'explique de façon très claire dans la mise en musique lorsqu'il rejette l'idée enseignée dans les lycées et dans l'université selon laquelle il y a une sorte de musique des sons qui se suffit à l'intérieur d'un texte. Lui, il considère que cette musique imitative ne signifie pas grand-chose et que justement La vraie musique consiste à retrouver la musique interne qu'il y a à l'intérieur du texte. Voici ce qu'il écrit. On a pris l'habitude d'écrire dans les manuels de littérature que le vers suffit à lui-même et que les syllabes chantent, que la rime ou l'assonance accuse les contours de la mélodie verbale. En dehors des recherches purement phonétiques, le poète écrit des mots, leur musique, s'il en est, relève d'un certain rythme interne. Et en fait, la musique a pour but de retrouver ce rythme interne qui n'apparaît pas directement dans le texte, et non pas de retrouver ces fameuses assonances qui, en effet, ne veulent rien dire. C'est du type des assonances à la fin d'Andromaque de Racine, pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes. Il serait censé rendre compte du sifflement des serpents. Il est bien évident que Racine n'a pas du tout écrit ses vers pour rendre compte de ça, ou alors c'est totalement puéril comme recherche d'effet. C'est pas ça qui compte, c'est le rythme interne qu'il y a à l'intérieur du vers, et seul la mise en musique peut dégager ce rythme interne. Et le musicien, son objectif, c'est de retrouver cette musique interne.
Je te donne ces vers afin que Simon aborde heureusement aux époques lointaines. Et fait rêver un soir les cervelles humaines, vaisseau favorisé par un grand tachyon. La mémoire pareille aux fables incertaines, fatigue le lecteur ainsi qu'un tympanon. Et par un fraternel et mystique chaînon, reste comme pendu à mes rimes hautaines. Être maudit, acquis de l'abîme profond, jusqu'au plus haut du ciel, rien en moi ne répond. Ô toi qui, comme une ombre, à la trace éphémère, foule d'un pied léger et d'un regard serein, les stupides mortels qui t'ont jugé amer,
avec ce poème de Baudelaire, mis en musique par Léo Ferré en 1987, « Je te donne ces vers », s'achève ce spécial Léo Ferré proposé par Martin Penet et Mathieu Ferré. Cette semaine, Les Poètes, en compagnie de Robert Orville, où nous avons entendu la voix d'Aragon. Mathieu Ferré, avant de se quitter, vous nous avez réservé une surprise, car dans chaque émission, vous nous offrez un inédit de votre père.
Oui, donc mon père a mis en musique des poèmes de René Baer. Tout le monde connaît La Chambre et la chanson de Scaphandrier. Aujourd'hui, c'est La Mauvaise Étoile, interprétée par Céline Cossimon, accompagnée à l'accordéon par Michel Glasgow. Merci Céline, merci Michel.
Des quartiers, il y en a une vingtaine. Des rues, doit y en avoir des lots. Des immeubles, il y en a des centaines. Des logements, il y en a des kilos. Alors pour retrouver sa chambre et son lit qui est un peu étroit, il y a de quoi s'esquinter plusieurs membres, surtout si l'on va pas très droit. On cherche à droite, il fallait pas. On cherche à gauche, c'est un faux pas. Il y a trop de maisons qui vous accostent. On perd son courage et sa clé. Un flic passe, on se fait boucler. Et l'on finit la nuit au poste. Des plaisirs, il y en a en pagaille. Des poules, il y en a dans tous les coins. Des bistrots, de quoi bouffer trois payes. Et le PMU qui est pas très loin. Mais si fatigué d'être veule, on recherche l'amour vainqueur. Alors qu'est-ce qu'on se prend sur la gueule? C'est fou ce que ça fait mal au cœur. On cherche à droite, il fallait pas. On cherche à gauche, c'est un faux pas. Il y a trop de besoins, trop d'habitudes. On perd son argent, sa santé. Puis vient l'âge, on a tout raté. On finit dans la solitude. Des savants, ça se trouve à la pelle. Des bouquins, il y en a plein les quais. Des sermons dans toutes les poubelles. Et des rédempteurs en paquets. Mais si dans la nuit, le silence, on cherche le vrai compagnon, on n'a pas vraiment beaucoup de chance avec un tout petit lumignon. On cherche à droite, il fallait pas. On cherche à gauche, c'est un faux pas. Il y a trop d'erreurs qui se croient de la science, à force d'avoir tout appris. On n'a jamais très bien compris, et l'on finit dans l'ignorance.
Prochain magazine Chanson, samedi prochain à 11h05. Nous retrouverons bien sûr Martin Penet et Mathieu Ferré pour la 4e émission consacrée à Léo Ferré. Cette émission a été mixée par Annick Briand et Philippe Carminati, réalisée par Annie Roger. Et les recherches d'archives INA sont dues à Florence D'Artois et Anne de Biran. Vous écoutez France Musique ? Dans quelques secondes, le journal nous sera donné par Frédéric Pommier.